Amer fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui Sophie Sultan, violoniste, pédagogue et chercheuse. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont Les classes du violon du Conservatoire de Paris, histoire du répertoire d'études et de concours de 1795 à 1994, et qui est sorti récemment aux éditions du Robec. Nous la rencontrons au Conservatoire du 13e arrondissement.
Donc là, on est au Conservatoire du 13e.
Oui, c'est l'ancienne école des Meuniers.
C'est très beau.
C'est beau, hein? Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce bâtiment.
Ouais, c'est très haut plafond. Et puis dehors, il y a les cerisiers qui sont en fleurs.
Oui. Oui, c'est un environnement très agréable.
Ouais.
On est dans un cocon. Alors, c'est un grand cocon.
Encore un étage?
Ouais, encore un étage.
Et là, vous enseignez un jour par semaine ou deux jours?
Trois jours par semaine. Jeudi, vendredi, samedi. Parce que j'ai une classe complète.
Ok. Donc, vous venez de Paris ou vous venez de l'extérieur?
J'habite à Rouen. Donc, je fais trois allers-retours. Je rentre à la maison tous les soirs. Je mets environ 2h15 aller. 2h15 aller, 2h15 retour. Mais ça va. C'est trois jours par semaine. Je ne pose pas des wagons au fond de la mine.
On rentre dans une salle de cours.
Oui.
Ça me fait très plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Vous avez une particularité, c'est que vous n'êtes pas seulement violoniste, vous êtes aussi auteur.
Ben, j'ai toujours aimé écrire. Donc pour moi, c'est assez indissociable, finalement. C'est très imbriqué pour moi. Alors, c'est vrai que, comme je ne suis pas chercheuse à plein temps, pour moi, c'est souvent une forme assez épisodique. C'est-à-dire que les moments où je vais être vraiment dans la recherche, je me sens souvent un petit peu moins dans la pratique du violon et vice-versa. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai une maturation probablement beaucoup plus lente qu'un chercheur à temps complet. Mais en même temps, c'est toujours comme une espèce de toile de fond. Et ça m'accompagne, même quand je ne suis pas dans une période où les archives m'occupent complètement, je pense que ça a fini par faire partie de ma pratique aussi, dans l'enseignement.
Le dernier livre que vous venez de sortir, ça porte sur le...
J'avais commencé ce travail-là justement quand j'ai fait ma formation de professeur, pour le diplôme de professeur. Et à l'époque, je venais d'avoir mon diplôme de violon au CNSM, au Conservatoire de Paris. Et puis quelques années avant, j'avais fait connaissance avec une violoniste qui s'appelait Denise Soriano, qui était une violoniste assez célèbre dans les années 60, jusque dans les années 80, je pense. Et elle avait épousé son ancien professeur, qui s'appelait Jules Boucherie, qui était donc un professeur au Conservatoire de Paris, qui est largement oublié aujourd'hui, mais qui, au-delà du violon, il a été le professeur de très grands violonistes, comme Ivry Gitlis, Davy Herly, Michel Schwalbe, qui a été le violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin pendant très longtemps. C'était le grand violon solo de l'Orchestre de Berlin. Et puis Jules Boucherie a eu une autre facette, dont il n'a pas parlé, je pense, de son vivant, mais ça a ressurgi après grâce à son épouse. Il a caché plusieurs de ses élèves juifs pendant la guerre, dans sa maison de campagne. Et il a eu la médaille des Justes après, grâce à l'action de son épouse, Denise Soriano. Ça a été une rencontre importante pour moi. C'était par le biais de ma grande sœur qui est violoncelliste, qui a été amenée à jouer en quatuor avec cette dame. Enfin, c'était une drôle d'histoire. Et je l'ai rencontrée. J'ai appris l'existence de Jules Boucherie. J'ai eu envie de me renseigner sur cet homme. Et le frère de Denise Soriano avait fait un livre sur Jules Boucherie que j'ai lu. Et en l'ouvrant, j'ai vu des tonnes de choses qui m'ont étonnée. Je ne savais pas que Fritz Kreisler avait été au Conservatoire de Paris. J'ai lu des tas de choses aussi dans ce livre sur Jacques Thibault, sur le conservatoire de l'époque. Et je me suis dit que ça serait un beau sujet de recherche, de comprendre ce qu'on jouait, ce qu'on faisait jouer à des violonistes pour former des violonistes au Conservatoire de Paris sur une très longue période, puisque le Conservatoire est né avec la Révolution française. C'est une institution républicaine. Et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on attendait d'un violoniste? Qu'est-ce qu'on devait faire pour former un bon violoniste? Par où on devait passer? Et puis comment ça s'est transformé au fil des années? Donc c'est parti de là. J'ai fait un mémoire pour passer mon diplôme de professeur. Et puis ça m'avait tellement passionné. Et je me suis dit que j'avais entrouvert une porte et qu'il fallait aller voir plus loin. Donc j'ai continué pendant la décennie qui a suivi à travailler sur ce sujet-là. Et puis à tirer un fil et voir d'autres pelotes venir derrière. Et c'est ça qui a donné naissance à ce livre.
C'est-à-dire aller à la bibliothèque?
Oui, beaucoup aux archives nationales aussi.
Comment on peut réellement apprendre qu'est-ce que se faisait dans une salle close? Parce que c'est comme ça que ça se passe.
Vous soulevez le problème. Comment on peut entendre? Parce que c'est ça qui m'intéresse comme musicienne. Moi, je veux entendre ce qu'on faisait. À travers des documents d'archives et du vieux papier. Et ça pourrait paraître un peu aride comme ça. Et finalement, c'est très, très vivant. On trouve plein de choses et c'est très parlant au sens premier du terme. Parce que d'abord, au XIXe siècle, les archives sont extrêmement bien tenues. Donc, suivant les périodes, c'est plus ou moins facile à suivre. Mais disons que toute la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est limpide. C'est extrêmement clair, c'est très bien organisé. Il y a un côté très protocolaire qui est amusant aussi. Parce que dans les PV d'examen, par exemple, ou dans les conseils d'enseignement, tout est consigné. C'est-à-dire que même les petites frictions entre les personnes présentes, les choses comme ça peut être consigné aussi. Il y a des lettres de professeurs au directeur qui sont très drôles aussi. Par exemple, le professeur va se plaindre au directeur. « Cher maître, cela fait 5 ans que mes élèves n'ont pas obtenu de récompense. Je suis très inquiet pour la réputation de ma classe.
» Comment ça s'est construit? Alors, il y a cette question du répertoire, est-ce qu'il a changé ou pas? Comment ça a évolué avec le temps? Enfin, on ne sait pas, est-ce que c'est devenu plus difficile ou pas?
On a des enregistrements des pièces qu'on jouait à l'époque. Je pense que les premiers enregistrements de violon, ça doit être autour, j'espère que je ne dis pas de bêtises, autour de 1903. En tout cas, on a des archives de Pablo de Sarasate, qui joue du violon. Eugène Isaïe, bon, ça c'est plus tardif, mais par exemple, Joseph Joachim. On a aussi des traces. Alors souvent, par exemple, Joachim, je crois que dans ses enregistrements, il est déjà assez âgé, donc c'est sans doute pas représentatif. Mais en tout cas, tout début XXe siècle, oui, ça, oui. Je me suis appuyée sur un livre extraordinaire de Constant Pierre, qui a réuni, ça fait plus de 1000 pages, de documents administratifs du conservatoire, de sa création jusqu'à l'année 1900. Et au départ, ce travail devait être présenté pour l'exposition universelle de Paris. Et puis c'était tellement monumental que ça a pris un petit peu de retard. Mais pour moi, les fondations, c'est vraiment ce livre extraordinaire. Constant Pierre, il avait un poste administratif au Conservatoire de Paris. C'était pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un musicologue. Enfin, en tout cas, pas labellisé comme tel. Et c'est un travail à la fois de compilation et d'analyse et de statistique. Ce qui était, je pense, assez moderne à l'époque. Par exemple, il y a plusieurs tableaux où on peut savoir le nombre de candidats par instrument et par département. Donc on voit qu'en telle année, sur les violonistes, il y a la majorité viennent de la Gironde et du département de la Gironde et de la Seine. Et je trouve que c'est des données qui sont très intéressantes aussi.
Et au point de vue sociologique, c'est très genré?
Au tout début, le conservatoire est ouvert à tous les sexes. Pas de contrainte de nationalité non plus, donc c'est vraiment l'esprit républicain dans toute sa splendeur. Et puis ça se referme un petit peu. Et à partir de 1822, je crois, on interdit l'accès des classes de violon aux femmes, jusqu'en 1850. Donc il n'y a plus de femmes admises, alors qu'il y en a eu au départ.
Sous quel prétexte?
Alors, je pense que c'était une conjonction de facteurs, parce que le conservatoire avait mauvaise réputation. Avant l'enseignement organisé par les républiques, on avait tout l'enseignement des réseaux de maîtrise, donc l'enseignement religieux, assuré par le milieu religieux. Et puis, à la création du conservatoire, les cours n'étaient pas mixtes, en tout cas en théorie. C'est-à-dire que sur le papier, on dit bien qu'il y a un bâtiment pour les élèves hommes, un bâtiment pour les élèves femmes. Oui, c'était... on poussait jusque-là. Pour le violon, je ne pense pas que ça ait été une réalité, parce qu'on voit que les cours de violon étaient donnés, par exemple, tel jour, dans telle tranche horaire, mais on ne voit pas de séparation des sexes. Donc dans la pratique, je pense que ce n'était pas le cas. Contrairement au piano, où assez rapidement, il y a eu des classes de piano homme et piano femme. Ça paraît curieux aujourd'hui, hein, mais...
Sachant que c'est des cours individuels, de toute façon.
Pas à l'époque.
Ah.
Pas à l'époque, oui, oui. C'était des classes d'environ une dizaine d'élèves, mais tout le monde venait assister à la leçon. Donc il y avait un créneau de 3 heures. Alors ça marchait selon le calendrier républicain, pas par semaine, mais par décade. Donc on disait, je crois que le professeur donnait 3 leçons par décade, d'une durée de 2h30 ou 3 heures, je ne sais plus. Et tout le monde était tenu de venir, et puis le professeur organisait la leçon comme il voulait. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment étonnée quand j'ai commencé à travailler là-dessus, parce que quand moi j'étais étudiante au CNSM, la norme c'était les cours individuels, et ce depuis très très longtemps. Donc c'était 1 heure par élève. Et ça a commencé à changer à partir des années 1950-1960.
Et est-ce qu'ils jouaient aussi ensemble un peu à la... À la Suzuki ?
Pas à ce point-là, mais les duos, je pense que c'était assez fréquent, parce qu'on en voit dans les programmes de concerts d'élèves, il y a pas mal de symphonies concertantes pour 2 violons et orchestre, et parfois c'est 2 étudiants, parfois ça peut être le professeur et un étudiant, parfois c'est une composition de l'étudiant, on voit ça aussi, donc c'est quand même assez ouvert.
Et ça nourrit sans doute aussi votre propre pratique d'enseignant.
Ah oui, 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 énormément. Et puis... Pour moi, ça a été vraiment l'occasion de revisiter ce que j'avais appris. Parce que quand on travaille sur les débuts du conservatoire, les premières figures de violonistes qu'on rencontre, c'est Kreutzer, Rod, Bayot. Tous les violonistes connaissent Kreutzer et Rod. On passe tous par leurs études, éventuellement leurs concertos. Bayot, un petit peu moins. Donc... Alors que, curieusement, c'est le plus pédagogue des trois, je pense. Il y a des choses assez amusantes, d'ailleurs, parce que... Je fais un petit retour en arrière. Quand le conservatoire a été mis en place, on accueillait même des débutants. Ça aussi, c'était très déroutant pour moi, parce que s'il y a bien aujourd'hui une école qui est le symbole de l'excellence dans l'enseignement musical et l'enseignement supérieur, il y a un écrémage qui est déjà très, très sévère pour y entrer. C'est bien le conservatoire de Paris. Et au tout début, les portes étaient largement ouvertes parce qu'il fallait justifier aussi l'existence de ce conservatoire.
Donc des jeunes adultes commençaient le violon ?
Il y avait une limite d'âge à 25 ans, je crois. Mm-hmm. Peut-être un tout petit peu moins pour... c'est écrit comme ça, pour ceux qui n'ont aucune notion de musique. Il fallait savoir lire et écrire. Voilà.
Et ça vous paraît aujourd'hui faisable de devenir violoniste à partir... À 25 ans, sans connaissance ?
Alors, je pense que les étudiants plus âgés qui rentraient, c'était quand même probablement pas à 25 ans. Je pense que cette limite-là, c'était probablement plus pour les chanteurs ou pour d'autres instruments, à mon avis. On voit quand même des étudiants qui rentrent à l'âge de 16-17 ans, mais ils ont un petit peu de pratique avant. Mais il y a eu des débutants. C'est écrit, par exemple, dans les comptes rendus d'évaluation semestrielle. Monsieur Untel... est au commencement.
Et avec quoi il commence ? Alors, pas forcément le débutant, mais justement, quelles sont les études ?
Beaucoup de sonates de Corelli, de sonates italiennes plus anciennes. Et il y avait, je pense, l'idée que l'enseignement devait être plus ou moins chronologique et suivre les progrès de l'art, avec beaucoup de guillemets, parce qu'on parle beaucoup de progrès dans l'art aussi, dans les textes de l'époque. On démarrait avec les sonates baroques, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, de Corelli, Tartini... pour avancer après. Et puis, y avait tout à faire sur le plan pédagogique, parce qu'il y avait quand même des méthodes de violon antérieures, de Cartier, chez les Italiens, de Geminiani, et puis la méthode de Léopold Mozart. Donc, il y avait du matériel pédagogique. Mais c'est aussi une époque où les archets changent. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions dans l'organologie, en particulier pour l'archet. Nouveaux outils, nouvelles méthodes, nouvelles musiques, tout ça, ça se tient la main. Et on a des exemples de violonistes. Le grand violoniste, la star de l'époque, c'est Viotti. Donc violoniste italien, mais qui a vécu essentiellement à Paris, puis à Londres après, puis retour à Paris. Et Viotti est allé voir des archetiers de la famille Tourte pour dire j'ai besoin d'un archer qui ait telle et telle qualité maintenant, comment on peut faire ça? On sait qu'il y a eu des collaborations pour ça. Donc ça demandait aussi une nouvelle approche technique et puis une nouvelle approche pédagogique. Et les gens du conservatoire s'en aperçoivent assez vite et puis se disent, bon, bah, puisqu'on est le modèle du monde en matière de politique et de droit, on va être aussi le modèle du monde en matière de musique et de pédagogie. Donc il faut qu'on fabrique des méthodes. Et on demande aux professeurs des différents instruments d'élaborer des méthodes.
De façon obligatoire ?
Oui, oui, oui. Il y a des textes comme ça qui disent bon, bah, les violonistes, réunissez-vous et puis fabriquez-nous une méthode de violon.
Ce n'est pas intéressant parce que, est-ce qu'aujourd'hui, un professeur au CNSM, quand il est embauché, est-ce qu'il écrit un projet pédagogique ?
Pour les professeurs de ce niveau, je pense qu'on n'appellerait pas ça comme ça, mais c'est une question qui me fait réfléchir aussi parce que le recrutement des professeurs a beaucoup changé. Aujourd'hui, un professeur au CNSM, on attend, je pense, d'abord qu'il ait un rayonnement international, national, que ça soit une figure importante de son instrument, une figure de concertiste, avant tout. Et puis, il y a tout un dossier, une lettre de motivation, des choses très classiques comme ça pour un recrutement maintenant, et une épreuve de pédagogie devant un jury, avec des élèves que l'aspirant professeur ne connaît pas, n'a jamais rencontré, mais... Okay. Mais un projet pédagogique écrit, je ne crois pas. Je suis même sûre que non. Ouais. Et quand on regarde le recrutement des professeurs, alors au tout début, bah, je pense que ça s'est fait aussi. On a recruté le personnel des anciennes écoles royales en faisant cette école républicaine. Après tout, on n'allait pas tout réinventer depuis zéro. Hein. Mais quand il a fallu recruter une deuxième génération de professeurs, là, on a des traces aussi de ce qu'on demandait. Et aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement décalé avec ce qu'on fait, parce que, par exemple, il y avait une épreuve de lecture de différentes clés. En termes de pédagogie du violon, je pense qu'on n'attend plus ça aujourd'hui. Et c'était aussi un modèle dans lequel le compositeur était au sommet de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que c'était vraiment la figure de musicien la plus complète. Et le simple instrumentiste, même soliste, était quand même considéré comme un inférieur. Et on le voit dans les salaires, d'ailleurs. Dans les grilles de salaires, les professeurs de composition sont mieux rémunérés qu'un professeur d'instrument. Il y a une vraie hiérarchie qui a l'air d'être une évidence pour tout le monde. Les professeurs du conservatoire sont généralement moins bien payés que les professeurs des Beaux-Arts. Et donc, ils se réclament de ça. Ils disent, mais attendez, regardez les Beaux-Arts.
Le conservatoire, il est où à l'époque? Donc, les Beaux-Arts sont rue Bonaparte.
Rue Bonaparte. Le conservatoire était... Alors, le premier conservatoire, c'était l'hôtel des Menus Plaisirs, dont l'adresse ne me revient pas tout de suite. Et je ne me rappelle plus si c'était le même bâtiment. Ça a été longtemps Faubourg Poissonnière. Puis rue de Madrid, puis maintenant, depuis les années 90, à la Villette.
Ouais.
Il y a toujours ce qu'on appelle la salle de l'ancien conservatoire. Ça existe toujours.
Et donc, il y a cette recherche autour de comment les personnes étaient embauchées. Est-ce qu'il y avait aussi des notes sur comment on sortait du conservatoire ?
Aussi, oui, oui. Et d'ailleurs, il y avait tout un cérémonial. Donc, le conservatoire ouvre en 1795. Les classes de violon sont actives officiellement à partir de la rentrée 1797. Et puis, on a déjà des remises de prix, j'espère que je ne me trompe pas, l'année suivante, en 1798. Et il y a des...
Pour une année de...
Oui. On essuie les plâtres un peu. Et ça, c'est très perceptible, parce que mille fois, le conservatoire a failli fermer. On se dit, mais pourquoi on met de l'argent là-dedans? À quoi ça sert? Et puis, j'ai trouvé dans la presse des récits de remise des diplômes. Et de la première... remise de diplôme, c'était vraiment très protocolaire avec une... Je ne me rappelle plus à quel endroit ça se passait, mais on remettait au lauréat une couronne de laurier, une vraie couronne de laurier. Et puis les prix étaient incroyables. On offrait... À l'époque, s'il y avait un concours de violon, et le mot concours se justifiait à l'époque, c'était pas simplement un examen de fin d'études, c'était un vrai concours entre plusieurs participants. Et le lauréat gagnait comme premier prix un violon. On lui offrait un violon.
Ah, c'est pas le moindre.
Ben ouais, c'est le deuxième prix, on lui offrait un lot de partitions. Et au départ, tout ça, c'était sur le budget du conservatoire. Et puis après, les cordons de la bourse se resserrent un peu. Comme il y avait au milieu du 19e siècle un luthier attitré au conservatoire, après, c'est le luthier qui s'est mis à offrir des violons pour les lauréats, des violons et des archets. Et puis, il y avait aussi, alors on voit dans les documents d'archives, le directeur pouvait choisir des modèles de médailles. Il y avait des médailles en vermeil, des médailles en argent pour les différents prix.
Et qu'est-ce qu'il jouait ?
Alors, pendant très très longtemps, le canon, ça a été la musique de Viotti. Viotti, c'était... y a des textes, on l'appelle l'Homère du violon. C'était l'idéal à atteindre. Et on a joué que du Viotti jusqu'en 1878, je crois, à une exception. Il y a une année, en 1845, où un nouveau professeur a voulu faire jouer autre chose que du Viotti, et ça a été une terrible bataille, à tel point qu'un autre professeur a voulu démissionner à cause de ce changement.
Et pas de Mozart,
pas pour l'examen de fin d'études. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis contente d'avoir un peu réorienté mon travail entre le proto-livre qui était le mémoire de formation et ce qui est devenu le livre, parce que quand on arrive à avoir accès au programme d'examen, ça rééquilibre un petit peu la vision qu'on peut avoir de ce qu'on faisait au conservatoire. Quand le conservatoire a pris ses marques, je pense que c'était logique qu'on joue la musique de Viotti parce que c'était la modernité de l'époque. Et les trois professeurs les plus importants, Kreutzer, Roth, Baillot, avaient été soit élèves de Viotti, Roth l'a été, les deux autres, je pense pas vraiment, mais c'était des grands admirateurs et puis ils se connaissaient, ils étaient en lien. Et il y avait une certaine évidence à faire jouer cette musique-là, parce que c'était ce qu'il y avait de plus moderne et de plus abouti aussi dans la virtuosité, je pense, à l'époque. Et puis, par tradition, on a gardé... Elle a des qualités, cette musique. Il y a plein de choses intrinsèques qui justifient qu'on la joue, et qu'on la joue encore aujourd'hui. Les violonistes, les jeunes violonistes dans les conservatoires jouent toujours la musique de Viotti. Mais bon, il y a eu d'autres choses quand même.
C'est juste qu'aujourd'hui...
Il y a eu Mozart, il y a eu Beethoven,
il y a Mendelssohn, il y a tout le monde.
On manque pas de choix quand même. Pour le violon, on est extrêmement gâté avec le répertoire. On a l'embarras du choix.
Alors, d'ailleurs, à l'époque, il y a combien de professeurs de violon,
Tout début, il y en a, de mémoire, il y en a 8.
Quand même.
Donc en 1795, il y en a 8. J'espère que je ne dis pas d'annerie.
Mais c'est un grand conservatoire, c'est-à-dire
parce que c'est un grand conservatoire.
Parce qu'ils ont combien d'élèves ? 20 élèves
Je crois qu'au tout début, c'est près de 600 élèves. Parce qu'il y avait aussi cette... Oh, pardon, non, tous instruments.
Ah non, je pensais à une classe de violon.
Classe de violon, c'est grosso modo une dizaine d'élèves par classe.
Ok, quand même des petites classes.
Oui. Ouais. Alors, avec beaucoup de mouvements, parce qu'aujourd'hui, on a un concours d'entrée annuel. À l'époque, il y a une espèce de roulement. Donc, on fait des tests d'admission au long de l'année même. C'est vraiment pas le même système. Et puis, il y a un besoin important de recruter des élèves. Et ça, je pense que c'est une leçon très importante pour une école. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'école. On peut avoir les meilleurs enseignants du monde, avoir beaucoup de lustres, beaucoup de compétences réunies. On n'est rien, nous, s'il n'y a pas d'élèves. Il y a des exemples assez féroces comme ça dans les comptes rendus où, tant pis, on prend et on garde même des très mauvais élèves parce qu'on a besoin d'eux. Donc il y a des choses écrites textuellement. Tel élève, gardons-le jusqu'à ce qu'on ait besoin d'une place. Ou alors gardons-le parce que son protecteur le soutient encore, mais bon, ça ne peut plus durer très longtemps. Mais il faut remplir les classes. Alors si celui-là, on ne le sent pas très bien parti pour le violon, tant pis, on va le mettre au hautbois parce qu'il y a de la place au hautbois et il faut remplir la classe de hautbois.
Et ses élèves deviennent aussi professeurs à leur tour ?
Oui. Oui, oui. Il y a énormément de professeurs, et puis même pendant leur scolarité. C'est-à-dire que le parcours classique d'un élève du conservatoire, au bout d'un moment, quand le conservatoire s'est assis, a pris sa place, c'est rentrer dans une classe de violon, être le répétiteur de son professeur, pas rémunéré, entre par exemple parenthèses. L'école est gratuite, donc c'est aussi quelque chose qu'on doit à l'école en retour, je pense. On est le répétiteur du professeur, et puis éventuellement, on peut être promu adjoint du professeur, c'est déjà un petit peu mieux. Et jusque dans les années 1990, tous les professeurs de violon ont été des anciens élèves du conservatoire. C'était complètement endogène. On ne recrutait pas à l'extérieur. Les premiers, c'était... je crois que le tout premier, c'était Boris Garlitsky, qui est russe et qui avait étudié en Russie. Mais avant lui, tous les professeurs précédents avaient étudié auparavant au conservatoire.
Et votre professeur avait aussi étudié ?
Oui, mon professeur avait... Alors, c'est un cas particulier aussi, parce que c'est Olivier Charlier. Lui-même a vraiment suivi ce parcours-là. Il est rentré au conservatoire très jeune. Il est rentré à l'âge de 10 ans. D'abord en classe préparatoire, puisqu'il y avait des classes préparatoires à l'époque. Il venait d'Amiens. Il est rentré à 10 ans au conservatoire. Et puis, il a fait son cursus dans les classes supérieures, puis les classes de perfectionnement. D'abord avec Jean Fournier, puis avec Pierre Doucan. Et puis, il est devenu l'assistant de Pierre Doucan. Et quand Pierre Doucan... est parti à la retraite, il a succédé à son professeur. Donc il m'a dit lui-même, finalement, il a une soixantaine d'années aujourd'hui, il m'a dit, j'ai jamais quitté le conservatoire sous une casquette ou sous une autre, depuis l'âge de 10 ans. Il a commencé à enseigner très jeune, d'abord la musique de chambre, puis le violon.
Et... Donc il y a toute une génération qui complètement était encore dans ce parcours de transmission.
Ah oui, oui.
Et aujourd'hui, c'est un autre type de recrutement depuis...
Ça s'est un petit peu ouvert. Ouais. Par exemple, là, l'année dernière, il y a un nouveau professeur qui a été recruté, qui est finlandais, qui est aussi le violon solo de l'Opéra de Paris maintenant. Mais lui n'a pas étudié au CNSM. Et je crois que son professeur avait étudié au CNSM, si je me souviens bien. Encore une fois, j'espère que je ne déforme pas. Mais ça s'est beaucoup ouvert.
Alors, ce livre, c'est ça. C'est donc tout un parcours sur 200 ans et... Maintenant qu'il est écrit, j'imagine que ce travail de recherche, ça ne s'arrête jamais.
Oui, ça ne s'arrête jamais. Je sais qu'il y a une manière de compléter ce livre qui me tient à cœur, c'est de mettre à disposition une base de données, parce que pour reconstituer tous les programmes d'examen semestriel, je suis allée voir classe par classe, examen par examen, dans la classe de Charles Danclat pour l'examen du 25 mai 1872. Les élèves, un tel, ont joué telle et telle œuvre. Et c'est un peu archaïque si on fait une version figée où je pourrais chercher ou présenter ça que par professeur ou que par date. Et maintenant, on fait des choses merveilleuses avec des bases de données relationnelles. C'est assez vertigineux parce qu'on peut... Par exemple, une fois qu'on a rentré toutes les données, en un clic, on peut avoir le parcours entier d'un élève. On peut savoir tout ce qu'il a joué sur toute sa scolarité, combien de temps ça a duré, s'il a changé de professeur, ce qu'il a joué comme répertoire. Et... Donc ça, c'est un gros chantier à côté de ce travail. J'en ai mis une version figée sur papier dans les annexes, parce que... Pour le moment, je pouvais pas faire autrement. Mmh. Mais je pense qu'à terme, ça serait bien d'avoir ça dans une version plus dynamique. Pour moi, si je reviens aussi au début de l'entretien, c'était une façon de revisiter mon parcours. Parce que quand j'ai commencé enfant au conservatoire à Angers, j'ai eu un parcours assez académique au conservatoire. Et puis les premières œuvres, c'était les études de Charles Danclat, les concertos de Viotti. Et à l'époque... L'édition sur laquelle je travaillais, c'était revue par Georges Catherine. Et au dos du concerto, les auteurs et les œuvres étaient classés par force de 1 à 9. Et pour moi, à l'époque, ça avait beaucoup de sens de me dire « Ah, je suis au niveau 3. Dans quelques années, je pourrais aller au niveau 9. » Et Viotti, c'est peut-être niveau, je sais pas quoi, niveau 6, niveau 7. « Oh là là, Viotan, c'est niveau 9, ça doit être beaucoup plus intéressant. » Et vivement que je puisse jouer ça. mais c'était quand même assez désincarné. Pour moi, c'était des noms, et puis il y en avait certains qui ne me plaisaient pas tellement, mais bon, apparemment, il fallait passer par là pour... Voilà, c'est ça. C'était un peu débloquer les niveaux d'un jeu vidéo. Bah maintenant, ces noms-là, ils veulent dire quelque chose pour moi, parce que à force de les fréquenter dans leurs écrits, dans leurs lettres, dans les relations avec d'autres professeurs aussi, maintenant, ils me sont beaucoup plus familiers. Et j'ai un attachement différent à leur musique.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Kramer Fantôme. Kramer Fantôme. Kramer Fantôme. Kramer Fantôme. Une émission Panadialistique.